Chapitre 9. Les Gergéséniens, ne désirant pas sa présence, Jésus passe de nouveau à l'autre rive et rencontre aussitôt d'autres personnes dans le besoin. Dans le chapitre 9, nous voyons comment il délivre l'homme frappé de paralysie, la femme malade, la fille de Jaïrus, les deux aveugles et le muet démoniaque, de nouveau une quintuple manifestation de la puissance du royaume qui s'était approchée dans sa personne. Dans le premier de ces cas, le Seigneur établit clairement la relation existant entre le miracle qu'il opérait pour le corps et la bénédiction spirituelle correspondante. Le premier facilement visible, la seconde cachée. En réponse à la foi des hommes qui ont amené le paralytique, le Seigneur va directement à la racine du mal et prononce le pardon des péchés. Comme celui-ci est mis en question, il prouve son pouvoir de pardonner par sa puissance de transformer la condition physique de l'homme. Ses détracteurs ne pouvaient ni pardonner les péchés, ni guérir la paralysie. Il pouvait, lui, l'un et l'autre. Les foules le constatent et glorifient Dieu. Les versets 9 à 17 rapportent un incident concernant Matthieu lui-même. Ceux qui connaissent la puissance terrible que l'argent exerce sur l'esprit humain pourraient presque qualifier de miracle l'appel relaté au verset 9. Matthieu était assis dans son bureau de recette, tout entier à la tâche agréable d'encaisser de l'argent, lorsqu'il entend ces deux mots de la bouche de Jésus « Suis-moi ». Celui qui l'appelle prend une telle dimension à ses yeux que l'argent s'en trouve détrôné et perd son attrait. Un vrai miracle, assurément. Il se lève et suit Jésus. C'est dans sa maison que Jésus se met à table avec des publicains, des pécheurs et ses disciples. Ainsi, maintenant, Matthieu débourse de l'argent au lieu d'en recevoir. Ce sont les autres évangélistes qui nous le disent, alors que Matthieu, avec une modestie bienséante, ne le mentionne pas. La scène entière est une offense pour les pharisiens, mais elle permet d'établir en quelques mots quelle est la mission de Jésus. Les pharisiens ne s'étaient pas arrêtés aux paroles du Seigneur par osée, selon lesquels ils préféraient l'exercice de la miséricorde à l'offrande de sacrifices cérémoniels, une parole que bien des pharisiens modernes ignorent aussi. Et ils ne connaissaient pas sa mission envers ceux qui étaient malades spirituellement, appelés des pécheurs à la repentance. S'il était venu appeler des justes, les pharisiens seraient accourus en foule, mais ils auraient tous été renvoyés, puisque selon le critère divin, il n'y a pas de justes. La question soulevée par les disciples de Jean amène une déclaration supplémentaire. Après avoir appelé des pécheurs à la repentance, il se les attache comme étant les fils de la chambre nuptiale et les introduit dans une position de liberté en contraste avec le respect des exigences de la loi. Dans les jours qui viendraient, pendant son absence, il y aurait un jeûne d'une autre sorte. Mais il ne pouvait pas y avoir de véritable mélange entre les choses nouvelles qu'il apportait et l'ancien système légal. Le vin nouveau du royaume doit être mis dans des outres neuves. Essayer de retenir à l'intérieur de forme légale la grâce du royaume, qui s'étend à tous, donne un résultat désastreux. La grâce est perdue et les formes sont ruinées. Comme il leur disait ces choses, d'autres incidents surviennent qui, dans une certaine mesure, servent d'illustration à ses paroles. Alors qu'il est en route pour ressusciter la fille de Jaïrus, il est arrêté par la foi hardie de la femme qui avait une perte de sang. Elle faisait partie de ces malades qui avaient besoin du médecin. Son acte de foi dérangeait le programme, mais qu'était-ce pour celui qui trouve son plaisir dans la miséricorde et non dans les sacrifices? Sa foi est reconnue, et la femme est guérie instantanément. Puis, lorsque le programme reprend son cours et qu'ils arrivent à la maison de Jaïrus, Jésus bouscule le déroulement habituel des choses tel qu'il était prescrit. Les formes juives ne résistent pas longtemps à la puissance de sa grâce. Il ordonne « Retirez-vous ». Et tous doivent effectivement reculer devant la puissance de vie qu'il détient. L'enfant morte est ressuscité. Le cri des deux aveugles, verset 27, renferme les accents de la foi. Ils le reconnaissent comme le fils de David promis. Lui reconnaît leur foi et la met à l'épreuve. Dans leur réponse, ils affirment leur foi en sa puissance. Aussi, dans ce cas, il exauce leur prière selon leur foi. Ils savaient que cette foi était réelle, et cela nous est confirmé par le fait que leurs yeux furent ouverts aussitôt. Posons-nous chacun la question. Si mes prières devaient être exaucées selon ma foi, que recevrais-je? Le péché a réduit l'homme à la misère. Il l'a rendu spirituellement malade, mort et aveugle. Mais il l'a aussi rendu muet à l'égard de Dieu. Lié par le diable, il ne peut pas parler. Lorsque l'homme du verset 32 lui est amené, Jésus s'occupe de la puissance démoniaque qui était à la racine de son état. La cause étant atteinte, l'effet disparaît aussitôt. Le muet parle et les foules s'en étonnent. Jamais auparavant, elles n'ont vu ou entendu parler de délivrances semblables à celles qui sont opérées par la puissance du royaume en grâce. Seuls les pharisiens demeurent insensibles. Et non simplement insensibles, mais ils sont entièrement dans le mal, car, ne pouvant pas nier la puissance, ils se soustraient volontairement à son influence en l'attribuant au diable lui-même. Ce chapitre se termine sur le fait merveilleux que le rejet inique de sa grâce n'a pas tari sa compassion. Il va par toutes les villes et par les villages, prêchant l'évangile du royaume et en manifestant la puissance par des miracles de guérison. La vue des foules et de leurs besoins ne fait que l'émouvoir d'une profonde compassion, la compassion du cœur de Dieu. La foule n'avait pas de berger, et il y avait encore une grande moisson à rentrer. Il se prépare à y envoyer des ouvriers.